Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast d'eToro. Il s'agit du podcast L'Hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti.
Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, épisode numéro 41 déjà. Nous sommes le lundi 25 mars et j'ai l'honneur de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc.
Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous.
Alors, cette semaine, quel est le sommaire? On va tout d'abord parler de la France, on va parler du déficit public de la France qui ne cesse d'augmenter. Marc, tu vas nous aiguiller là-dessus. Ensuite, on fera un point banque centrale, puisque la semaine dernière, il y a quand même eu 5 banques centrales majeures qui ont tenu leur politique, réunion de politique monétaire. Et donc, on fera un petit bilan de ce qui s'est passé. C'est assez intéressant, puisqu'il y a des baisses de taux. Donc, ça varie selon les banques centrales. Et puis, on va terminer, comme d'habitude, par les marchés boursiers, qui, malgré le fait qu'ils ont fait de nouveaux plus hauts, on sent qu'il y a quand même une respiration de marché. Et donc, on va aussi en parler. Bon, pour démarrer, la France, ça va pas en France hein, sur le.
Je dirais que c'est vrai que là, le gouvernement panique. On a vu Bruno Le Maire il y a quelques semaines. Maintenant, ça, c'est Emmanuel Macron qui donc nous dit voilà, le déficit public est plus fort que prévu. Donc, il semble découvrir l'eau chaude. Moi, ça fait plusieurs mois que j'annonce. Ici même, d'ailleurs, hein, il ne faut pas être grand devin, hein, ni faire des grandes équations. Simplement, on voit bien qu'on a une croissance qui ralentit, qui est plus faible que prévu. Donc, ça veut dire moins de rentrées fiscales. On a des dépenses également qui augmentent. Donc, c'est le béaba. Hein, si vous augmentez les dépenses et que les recettes n'augmentent pas à l'aune de ce qui était prévu, mécaniquement, vous avez votre déficit qui se creuse, on devrait dépasser les 5%. Et ce qui est très inquiétant, c'est que la France est le seul pays, justement, de la zone euro, où ce déficit public augmente. Et donc, mécaniquement, quand le déficit public augmente, il y a des tensions, évidemment, sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Et c'est là où le gouvernement panique un petit peu, puisque la note de la France va être révisée fin avril par Moody's et Fitch, et pour fin mai à peu près, par Standard & Poor's. Donc, ça veut dire que on aura certainement une dégradation. En fait, il faut être très honnête, on aurait déjà dû être dégradé il y a bien longtemps. On ne l'a pas été pour X miracle, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que quand on voit des pays comme l'Italie ou le Portugal qui ont fait des efforts énormes pour réduire justement leur déficit et leur dette et qui, eux, ont une note bien moins bonne que la nôtre, on se dit il y a quand même un petit problème, surtout pour l'Italie. Elle est toujours triple B, donc c'est quand même un petit peu surprenant. Donc nous, c'est vrai qu'on devrait être dégradé un petit peu et donc mécaniquement, les taux d'intérêt vont augmenter. Tout le problème, c'est que les mesures annoncées, on le dit, oui, on va réduire 5 milliards, peut-être 10 milliards d'euros de dépenses. Ça fait tous les ans, on nous annonce ça depuis des années. Hein, et finalement, la dépense publique ne baisse jamais. Depuis qu'on a des statistiques en France, la dépense publique n'a jamais baissé en France. C'est quand même assez incroyable. Donc là, évidemment, ce n'est pas une baisse des dépenses, c'est une moindre hausse. Donc ça ne peut plus durer, c'est plus crédible. Et ce qui veut dire que là aussi, on a un problème donc, de crédibilité. Donc, bien sûr, les agences de notation, mais j'ai envie de dire, le problème n'est pas tellement ça, parce que je rappellerai que les agences de notation, elles notaient triple A les dettes subprime quelques semaines avant que ça n'explose. Hein, donc, ce n'est pas un modèle de crédibilité. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de la confiance des investisseurs, même si pour l'instant, la France conserve quand même une bonne note, même si on est un petit peu dégradé par rapport aux autres, ce qui compte justement, c'est la dynamique. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que tout ce qui avait été promis n'est pas tenu et qu'à partir de là, les petites réformettes qu'on va faire ici ou là, les petites baisses, les petites économies qu'on va faire ici ou là, ça ne va pas changer. Moi, je suis pour, au contraire, ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ça veut dire qu'il faut redorer le blason de la croissance en baissant fortement les impôts, notamment la CSG ou les impôts sur les entreprises. Donc là, mais dans mon temps d'au moins 30 milliards, donc ça booste la croissance. Mais si on fait ça, il faut également baisser les dépenses et pas faire du saupoudrage 3, 4 milliards ici, 5 milliards là-bas, sachant que tous les jours, quasiment, on augmente les dépenses publiques à droite, à gauche. Donc, c'est vite perdu, ces économies. Donc, il faut repenser complètement la dépense publique française. Je rappelle que La dépense publique en France, c'est 58% de notre PIB, numéro 1 du monde. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses sociales également, 32% du PIB. Mais on ne va pas évidemment baisser les dépenses sociales maintenant parce qu'il y a une crise sociale. Donc par contre, on peut baisser les dépenses de fonctionnement qui augmentent de 23 milliards d'euros par an depuis 3 ans. C'est des sommes complètement folles. Il faut arrêter ou du moins réduire ce qu'on appelle le millefeuille administratif. C'est-à-dire toutes les couches de dépenses publiques, depuis l'Élysée, Matignon, les ministères, le Sénat, l'Assemblée, les régions, les cantons, etc., agglomération de communes. Enfin, c'est un capharnaüm. Donc là, on peut enlever quelques couches du millefeuille et ça fonctionnera très, très bien. C'est-à-dire qu'on aura une dynamique, je dirais, positive, parce que c'est ça le problème. On a beaucoup de dépenses, mais les services publics se dégradent. Donc ce n'est pas un problème de moyens. Les moyens sont là. C'est un problème d'allocation de ces moyens. Donc là, évidemment, on sera attendu sur ça. Il va falloir repenser complètement la dépense publique. Et pour ce faire, il faut une volonté politique très forte. Et je ne crois pas, malheureusement, que nous l'ayons aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises encore sur les déficits publics. Puisque pour 2024, comme il y aura encore moins de croissance, autour des 0,6% selon moi, même 1% selon le gouvernement, ça veut dire plus de chômage, donc plus de dépenses, moins de recettes, et ainsi de suite, donc plus de déficit. Donc on n'y arrivera pas. Donc il faut repenser complètement cette dépense publique française. C'est un gros travail. Est-ce qu'on a le courage de le faire? Voilà. Ou sinon, il faut être clair, les taux d'intérêt vont augmenter, ils ont déjà augmenté. Sachez qu'aujourd'hui, je termine par ça, hein, la charge d'intérêt de la dette en France, c'est 50 milliards d'euros par an. Et d'ici 2027 au plus tard, ça sera 75 milliards d'euros par an au minimum. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, en 5 ans, la charge d'intérêt de la dette, c'est quasiment 300 milliards d'euros. C'est pas sérieux. Donc, tous les économistes qui ont dit non, mais la dette, c'est pas grave, ça nous coûte rien, etc., c'est complètement faux. Ça nous coûte très cher. Et donc, il faut arrêter. Et d'autant que, dernier point, il y a un risque également de stabilité de la zone euro. Parce que, comme tous les pays de la zone euro font des efforts et que nous, on continue la gabegie de dépenses publiques, ça peut évidemment créer des tensions au sein de la zone euro. Et là, ça serait évidemment particulièrement dangereux pour l'avenir existentiel de la zone euro. Donc, on voit bien que c'est au-delà du chiffre, hein, 5%, 5,5, c'est pas
Oui, bien
tellement,
sûr.
bon, c'est important, mais ce qui compte vraiment, c'est la stratégie, les perspectives qu'on veut dresser pour les finances publiques françaises.
Oui, c'est sûr que ce n'est pas très reluisant. Maintenant, en termes d'activité économique, la semaine dernière, on a aussi les directeurs d'achat, notamment dans les services. Et je regardais, ça fait quasiment un an qu'on n'a pas dépassé la zone d'expansion, hein, qui est la fameuse zone des 50, puisqu'on est sous les 48 même pour ces PMI services. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Marc, sur cette
Alors,
activité?
c'est vrai que donc là, c'est la première estimation des chiffres du mois de mars, donc des indicateurs des directeurs d'achat, donc indicateurs avancés de l'économie, de la croissance. Et donc, c'est vrai que c'est très surprenant parce que la France, c'est le seul pays aujourd'hui quasiment dans le monde où non seulement on est sous les 50, et en plus ça baisse.
Oui,
Par exemple,
a
l'Allemagne, elle est sous
baissé
les
par rapport au mois
50,
précédent. Ouais.
mais ça monte un petit peu. Même dans les services, c'est au-dessus des 50. Pareil
Oui.
sur la zone euro, c'est au-dessus des 50. Donc, nous, évidemment, on est en deçà, que ce soit dans l'industrie, dans les services et pour l'indicateur composite, ça veut dire tout secteur confondu. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la croissance, malheureusement, elle n'est pas au rendez-vous. Et il y a aussi une enquête qui est sortie la semaine dernière, l'enquête INSEE, et l'indice de l'emploi de l'enquête INSEE est reparti à la baisse, ce qui montre que le chômage va encore augmenter également en France. Donc, c'est vrai que ce n'est pas reluisant, mais j'ai envie de dire, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que moi, je n'ai pas arrêté de le dire, pas qu'à nos dirigeants, mais à tout le monde. Il faut réagir. Ça fait déjà un an qu'on voit ça, même plus d'un an, et on n'a pas voulu réagir. On était dans le déni de réalité. Et donc maintenant qu'on est confronté à la réalité, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et donc là, c'est particulièrement dangereux. J'espère qu'on va s'en sortir, bien sûr, comme tout le monde. Mais la France est devenue le maillon faible, entre guillemets, hein, de la zone euro. L'Allemagne va mal, c'est sûr. Elle est en récession, assez dramatique. La France, pour l'instant, on est en stagnation. On évite quasiment la récession, mais ce n'est quand même pas l'euphorie. Mais surtout les perspectives, je pense que les Allemands vont redémarrer. Progressivement, certes, hein, en 2024, alors que nous, on va rester sur la croissance autour des zéros, voire légèrement négatif. Et donc ça, évidemment, ça montre bien que la France ne joue plus son rôle, hein, et donc il y a un problème de confiance, d'inquiétude sur l'avenir de l'économie française. Si en plus on est dégradé, que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, quand les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, donc ça fait de la récession, ça casse l'investissement, la consommation, ça fait du chômage. Après, c'est un cercle pernicieux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très dangereux, donc il faut vite réagir et surtout réagir de façon crédible. Pas, voilà, c'est vrai que Bruno Le Maire a sorti un nouveau livre, donc formidable, mais il nous dit en fait ce qu'il faut faire. sauf qu'il a le pouvoir depuis 2017, quoi. Donc pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? C'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Donc voilà, il faut aujourd'hui arrêter. Je dirais, c'est vrai qu'en France, on n'a pas une grande culture économique. Pour bon, il y a eToro, donc ça permet de développer la culture économique. Il y a ma chaîne YouTube également, hein, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que ça permet de développer la culture économique, mais ça ne suffit pas. On a encore une culture de lutte des classes. Moi, je vois encore des économistes, moi, ça me rend fou, que je connais bien, on va pas donner de nom, qui nous disent, ah mais non, mais la dette publique, c'est pas grave. On a des actifs, etc. Donc tout va bien. Oui, on a des actifs, mais bon, qui va vendre la Tour Eiffel, si vous voulez? À qui on va la vendre? Ça se vend pas comme ça, les actifs de la France. Donc faut être sérieux. Donc le problème aujourd'hui là, c'est que même si on ne va pas devoir rembourser toute la dette d'un seul coup, hein, 3 100 milliards d'euros, c'est sûr, mais on doit rembourser au moins les intérêts qui ne
Oui, bien
cessent
sûr, les intérêts
d'augmenter.
qui augmentent, oui,
Et voilà. Et
avec
donc,
le
ce qu'on appelle la
déficit qui augmente.
soute, tout à fait, ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire que si j'ai assez d'activité économique pour rembourser les intérêts de la dette, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est plus le cas. Depuis déjà 2010, 2007, d'ailleurs, hein, ça fait longtemps que ça dure. Donc, ça devient extrêmement dangereux.
Alors justement, c'est les banques centrales hein, aussi qui viennent au secours au final des économies et des pays. Et la semaine dernière, donc 5 banques centrales hein, qui ont tenu la réunion de politique monétaire, notamment on va commencer par la Bank of Japan, banque centrale du Japon, qui pour la première fois déjà depuis 2007, du coup, a remonté ses taux d'intérêt et sorti des taux négatifs. Alors certes, ce n'est pas une remontée très, très, très énorme, hein, puisqu'on passe de moins 0,1 à une fourchette entre 0 et 0,1, mais on repasse en taux positif. Et puis on a eu aussi, alors à contre-courant, la Banque centrale suisse, qui était la première des grandes banques centrales à ouvrir le bal de la baisse de taux, puisqu'elle a jugé que sa politique monétaire était assez efficace contre l'inflation. Donc c'est la première à avoir baissé ses taux. Et on sent que, bien sûr, la Fed, la BCE, devraient suivre hein, au courant de l'année. Voilà, quel est un peu ton regard, Marc, par rapport à ces banques centrales?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Alors bon, c'est vrai que la Banque du Japon, ça fait 17 ans qu'elle n'avait pas augmenté ses taux d'intérêt. C'est quand même assez incroyable. Alors d'ailleurs, pour tout vous dire, je pars au Japon là tout à l'heure. J'espère que ce n'est pas à cause de moi, hein, qu'elle augmente. Mais c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre parce qu'on se dit, ben, quand il y avait de l'inflation, c'est que l'inflation japonaise a dépassé les 3,5% il y a encore quelques mois. Donc moi, je m'étais dit, ben, elle va le faire, elle aurait dû le faire déjà l'année dernière. Puis non, elle n'a rien fait, alors que toutes les banques centrales ont augmenté leur taux d'intérêt. La Banque du Japon a dit, non, non, j'attends, j'attends. Bon, ben là, comme il y a eu des augmentations salariales de plus de 5% qui ont été votées il y a quelques jours, donc là, elle se dit, bon, là, je ne peux plus continuer comme ça, avoir des taux d'intérêt qui étaient négatifs. On était à moins 0,1%, c'est assez fou. Donc là, on place à plus 0,1% sur le taux de base. Ce n'est pas non plus évidemment énorme, mais hein, on voit bien que la Banque du Japon se dit il faut réagir. Alors, j'ai fait une petite découverte hein, que je suis depuis longtemps, c'est que quand la Banque du Japon monte ses taux, c'est jamais bon signe. Parce qu'à chaque fois qu'elle entame une phase de resserrement monétaire, une année ou peut-être deux maximum ensuite, il y a une crise. Donc, ce n'est pas bon signe. J'ai fait un graphique souvent qui le montre, où on voit, ben, par exemple, voilà, en 88-89, avant évidemment la crise qui a suivi, après évidemment en 2006-2007, avant donc la crise des subprimes. Et donc là, bon, est-ce que ça va être la même chose pour l'année à venir? C'est vrai que quand on voit tous les indicateurs au niveau mondial, quand même pas mal de risques de crise qui sont là. Donc, c'est vrai qu'il y a de quoi surprendre. Bon, je pense qu'elle va quand même s'arrêter là. Elle va monter, voilà, un petit peu. Je pense pas qu'elle ira au-delà, même si l'inflation est reparti encore un petit peu à la hausse le mois dernier au Japon. Mais bon, l'économie japonaise est une économie de déflation, hein, où structurellement parlant, il y a une croissance qui est très très faible. Mais on voit bien que même au Japon, ça s'arrête. C'est-à-dire que même au Japon, la dette publique qui flambe en permanence, ce n'est pas grave parce que 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Mais là aussi, on voit même que même les Japonais se disent, bon, faut peut-être que ça s'arrête un petit peu. Alors de l'autre côté, effectivement, tu l'as évoqué, sur la Banque de Suisse. On sait qu'en Suisse, c'est un petit peu surpris parce que l'économie suisse, elle était bien résistante. Et puis depuis quelques mois, les indicateurs, donc notamment des directeurs d'achat, sont mauvais, très mauvais. Hein. On est vraiment dans une récession assez assez lourde. Et donc c'est un petit peu logique que la Banque de Suisse ouvre le bal et baisse ses taux d'intérêt. Par contre, on voit bien que la BCE va le faire aussi parce que l'inflation continue de baisser, mais attention, l'inflation remontera à partir du mois de juin. Donc, elle a une petite fenêtre de tir, je pense, pour le mois de juin. Juin-juillet, il y aura peut-être deux baisses de taux d'intérêt d'affilée. Mais je ne crois pas qu'il y en aura beaucoup plus, hein, parce que, hein, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que la France retombe dans la récession, mais l'Allemagne va mieux. Donc, attention. Si la zone euro, là, on est sur l'indicateur du directeur d'achat, on est à 49,9 hein, sur l'indice composite. Donc, on est quasiment à la barre des 50. Donc, si ça va mieux dans la zone euro, elle ne pourra pas baisser fortement les taux d'intérêt. Pareil pour la banque centrale américaine et même la banque centrale d'Angleterre, hein, la banque d'Angleterre, où l'économie va mieux. C'est vrai qu'il y a eu la récession au Royaume-Uni, mais là, ça va mieux. Les indicateurs des directeurs d'achat sont très bons. Hein, on est sur 3% de croissance, que ce soit donc au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc, c'est sûr que l'inflation baisse un petit peu, mais ce n'est pas non plus formidable. Donc, les taux d'intérêt vont baisser, mais ne vous attendez pas à une très forte baisse des taux d'intérêt monétaire. Je pense que, et c'est pour ça que la Banque de Suisse, elle a commencé, je pense, en se disant, bon, tant qu'il y a des bons chiffres sur l'inflation, je préfère le faire maintenant.
Oui,
Et elle a raison, parce qu'il
anticipant,
faut
oui.
anticiper, hein, bien entendu. Parce qu'après, quand l'inflation va repartir à la hausse, ça va être
Oui,
compliqué
tout à fait.
de baisser les taux d'intérêt. Et donc, c'est pourquoi la réserve fédérale américaine, pour l'instant, ça va bien aux États-Unis. Donc, elle n'a pas tellement de raisons de baisser fortement. Je pense qu'elle le fera cet été. Mais pareil, hein, deux baisses des taux d'intérêt de 25 centimes, trois au maximum. Mais bon, donc, ça ira pas bien loin, hein, encore une fois, parce qu'il y a une croissance qui est forte. Les salaires qui augmentent, l'inflation qui va même repartir à la hausse, hein, les indicateurs de notamment CRB, de toutes les matières premières confondues, ben ça remonte, hein, faut faire attention, il y a quand même de l'inflation qui peut remonter. Donc, prudence sur les banques centrales, oui, les taux d'intérêt vont baisser, mais pas de façon exceptionnellement forte.
Alors justement, mercredi soir dernier, hein, lors de l'allocution de Jérôme Powell, les marchés ont été rassurés, puisque comme tu le dis, on anticipe maintenant trois baisses de taux cette année. Ça a été conforté, même si bien sûr ce n'est pas acquis, mais ça a permis justement au marché eh bien, d'inscrire de nouveaux sommets hein, pendant l'allocution de Powell. On a vu un Nasdaq, un Dow Jones surtout, qui a explosé hein, ses anciens records et qui s'est dirigé vers les 40 000 points. Hein, donc ça, c'était un niveau qui était inimaginable encore il y a quelques mois. Là, on a quasiment touché 40 000 points. Sur le Nasdaq 100, on est au-dessus des 18 000 points. Le S&P 500, au-dessus des 5 000 points. Donc, on voit qu'on a de nouveaux records semaine après semaine. Maintenant, on est très haut, on peut le dire, hein, puisqu'on est déjà en hausse de quasiment 12 % sur le Nasdaq. On est à 7-8 % sur le CAC. On sent qu'il y a une respiration qui commence à arriver. Alors, justement, sur le CAC 40, on a eu le secteur du luxe qui a émis un premier avertissement avec Kering, hein, qui a baissé de 16 % sur la semaine et qui a émis un avertissement de résultat sur sa filiale numéro 1, Gucci, hein, qui représente à peu près 70 % de son chiffre d'affaires. Donc voilà, on sent que maintenant, peut-être une phase de respiration va arriver. On termine le premier trimestre d'ailleurs à la fin de cette semaine. Marc, toi, ton sentiment un petit peu sur les marchés, qu'est-ce que tu peux nous
Bon,
dire?
ben, c'est vrai qu'on en parle à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important. On a cette folie, hein, tout simplement. C'est-à-dire ces sommets constamment atteints. Pourquoi? Parce qu'il y a du cash. Parce qu'il y a
Tout à fait.
toujours énormément de liquidités qui sont là. Si on voit les fonds monétaires, il y a plus de 6 000 milliards de dollars dans les fonds monétaires aujourd'hui dans le monde. Donc c'est du cash. C'est-à-dire on peut les utiliser en se disant, bah, tiens, pourquoi pas, on va y aller. Mais d'un autre côté, on voit que l'or continue aussi d'atteindre des sommets historiques.
Tout à fait.
Donc, on se dit, les investisseurs, globalement, ils se disent, bon, bah, finalement, bon, on va en bourse parce que, bon, bah, y a des affaires à faire, entre guillemets, et puis bon, ça monte. Donc, on ne peut pas aller contre le vent. Ça, c'est je dirais, un vieux dicton boursier. Hein, le marché a toujours raison. On ne peut pas aller contre le vent, sinon, évidemment, les investisseurs, les clients ne comprennent pas. Donc, on continue d'aller sur la bourse, mais on se dit, une petite poire pour la soif, parce que l'or est toujours très cher, mais ça continue parce qu'on se dit, il peut quand même, il y a des tensions, on le voit avec ce qui se passe en Russie, il y a des tensions évidemment au niveau géopolitique, au niveau mondial, il y a des tensions, je l'évoquais tout à l'heure, sur la France, sur la zone euro, donc il vaut mieux garder cette porte pour la soif. Hein. Donc l'or qui reste sur des sommets historiques, ça veut bien dire que le marché boursier, il peut enfin, dériver hein, très rapidement, je pense, hein. Surtout qu'on est donc sur des sommets, il y aura donc des prises de bénéfices assez nettes. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué, le timing est compliqué, mais nous l'oublions pas, comme on a eu quand même une petite récession en fin de l'année dernière au niveau mondial, une stagnation, on va dire, eh bien, donc on n'a pas vu ça encore dans les chiffres. On les verra justement sur les chiffres qui sortiront le trimestre prochain. Donc, quand même, prudence hein, sur les marchés boursiers, mais c'est vrai que moi, je dis sur le long terme, il faut en avoir, mais encore une fois, cette respiration, elle est nécessaire. J'entends, je fais des débats avec certains gérants ou autres, et ils me disent, non, mais la bourse, ça n'a plus rien à voir avec l'économie. Bon, oui, d'accord, mais c'est dangereux, justement. Normalement, la bourse, ça doit être lié à l'économie. C'est vrai que la bourse, ça anticipe, il y a une part de rêve, etc. On voit sur le Nasdaq et autres, toujours une part de rêve. Mais ce n'est pas que du rêve, il faut de la réalité aussi. Donc là, c'est vrai qu'on a eu des bons résultats le trimestre passé, donc ça c'était corrélé avec cette flambée boursière. Attention maintenant, il y a la correction qui va s'opérer. Et donc, soyons quand même prudents, hein, parce qu'on a une hausse des coûts qui sont là, le chiffre d'affaires qui baisse un petit peu. C'était l'alerte un petit peu de certaines entreprises du luxe, notamment la semaine dernière. Donc, soyons quand même prudents. Il y aura une phase de, je pense, de respiration. Moi, je pense qu'il peut y avoir une phase de respiration de 10-15% même, hein,
Oui,
de
c'est
baisse sur
possible.
les
Alors,
marchés
pour
pendant 3 mois,
rappel,
puis après, ça repartira à la hausse.
de
Mais là, il faut quand même être prudent,
toute
à court terme.
façon, il y a deux choses déjà. Déjà, il y a la saisonnalité. C'est vrai qu'on dit souvent sell in May, go away, c'est à partir du mois de mai. Alors, c'est jamais le 1er mai, bien évidemment, mais à partir de cette période-là où on a une consolidation, voire une correction du marché. Et l'année dernière, j'ai regardé, c'était le 21 avril. On a fait le sommet du CAC. Hein, on était aux alentours des 7 600 points. Et c'était le 21 avril qu'on a fait le sommet. Et derrière, on a eu 3 mois et demi de correction. Pourquoi pas que ça reprenne le même chemin cette année. Mais effectivement, là, on sent qu'une correction est nécessaire, puisque quand même depuis le 1er novembre, on a pris quand même 32% sur le CAC 40. Donc, c'est quand même en même pas 6
Ah ouais,
mois. Énorme.
c'est complètement fou. Donc tant mieux
Énorme.
pour vraiment ceux qui l'ont fait.
Oui.
Bon, nous, c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait monter aussi vite, hein, faut être très honnête. Hein, on était plus sur du long terme. Bon, bah là, il faut prendre ses bénéfices, hein, et puis on verra
Ouais.
bien après, quitte à racheter ensuite. Mais je
C'est
pense que
parti.
quand on a fait 32% en quelques mois, il ne faut pas être trop gourmand, entre guillemets.
Non, non, c'est sûr. Très bien, Marc. Bah, écoute, merci pour tout.
Avec plaisir.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a également la chaîne YouTube de Marc sur laquelle vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà
Avec plaisir, avec
abonné.
plaisir. Bien sûr, là, on est sur 140 000 abonnés, c'est
Ah,
formidable.
bah, magnifique,
Merci
magnifique.
à tous
Il
pour votre
faut.
fidélité, hein. Continuez, c'est super.
Oui, merci pour votre fidélité. Nous, on vous retrouve pas lundi prochain parce que c'est Pâques, mais on vous retrouve le mardi suivant, mardi 2 avril. Et Marc, nous, ce sera le lundi suivant.
Donc, un jour, avec grand plaisir.
Merci pour votre fidélité. Passez une bonne semaine et à bientôt. Salut.
Allez.
Vous venez d'écouter Digest et Invest, le podcast d'eToro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur eToro.com.